Nous allons passer à la littérature. Et j'ai le très grand privilège aujourd'hui de dialoguer avec mon collègue Antoine Compagnon. Et je voulais en fait commencer par une petite anecdote. Un jour, un collègue mathématicien que je connaissais de longue date m'a dit « Mais voilà longtemps que je voudrais te poser une question. Au fond, que font exactement les chercheurs en littérature et en linguistique ?» Oh ! Je lui ai dit « Écoute, je vais t'expliquer. » À condition que tu me dises ce que signifie faire des recherches en mathématiques. Alors, en fait, à travers cette interrogation mutuelle, c'est la question de la recherche dans les différentes disciplines, et dans la nôtre en particulier, qui est soulevée. Elle est sans doute d'autant plus importante que la désaffection des étudiants pour les lettres et les humanités en général est aujourd'hui patente. C'est pour ça que je voudrais essayer de donner ma réponse personnelle en évoquant une partie de mes travaux passés, et je vais le faire à deux niveaux. En demandant ce que fait le chercheur en littérature, quelle fonction il remplit dans notre société hautement technologique, mais aussi et corollairement, ce que fait la littérature, que peut-elle nous apprendre sur notre société et sur nous-mêmes. Alors, en fait, notre mission en lettres, bon, vous le savez, n'a pas de vocation pratique, mais elle n'en remplit pas moins un rôle fondamental. Cette fonction relève de la réflexion sur le faire, donc pas du faire, mais de la réflexion sur le faire, c'est-à-dire d'un exercice de compréhension et d'analyse critique. Donc, penser, interroger, sonder le monde dans lequel nous vivons est essentiel à la fois pour donner du sens à notre vécu et pour influer sur nos décisions et nos comportements. Alors, bien sûr, c'est un vaste champ d'investigation dont participent différentes disciplines, et dans l'espace des sciences humaines, mon point de vue est celui d'une spécialiste des sciences du langage, et plus particulièrement du discours, c'est-à-dire de l'analyse du langage en situation. En tant que telle, je me penche sur le logos, puisque les Grecs, vous le savez, désignaient par ce terme à la fois la parole et la raison. Un beau terme qui n'a pas d'équivalent. Comment un sujet parlant, comment est-ce qu'il manie le langage pour penser le monde qui l'entoure, pour fournir un éclairage sur le réel et le faire signifier? Comment tente-t-il d'orienter chez les autres des façons de voir et de penser? Et c'est dans cette perspective que j'ai choisi de travailler sur l'argumentation rhétorique, c'est-à-dire dans la façon dont le discours est mobilisé pour construire des raisonnements, pour soulever des questionnements sur des sujets divers, et plus particulièrement sur des sujets de société. Alors bon, c'est l'argumentation rhétorique, telle que l'a conçue Aristote, telle que l'a définie le grand philosophe et juriste Chaim Perelman, qui traite de la façon dont nous manions le discours, dont nous usons de procédures argumentatives pour confronter des points de vue divergents et pour faire, si possible, adhérer nos interlocuteurs à nos propres opinions. C'est l'essence de la délibération et, à travers elle, de la démocratie. J'ai donc consacré ces 20 dernières années l'essentiel de mes travaux à ce domaine en analysant les modalités argumentatives de toutes sortes de discours, le discours politique, le discours médiatique, le témoignage, etc. Mais en même temps, je suis, si je puis dire, revenue à mes premières amours, c'est-à-dire à la littérature du 19e et du 20e siècle. Et la question était, est-ce que le discours littéraire qui n'a pas de finalité pratique, est-ce qu'il participe à l'entreprise d'argumentation telle que je viens de la définir? Et si oui, comment, dans quel sens et selon quelle modalité? Alors, du coup, ça m'a permis de reprendre à nouveau frais une question qui m'avait toujours fortement mobilisée quand je travaillais sur la littérature, celle du rapport justement entre texte et société, qu'ont étudié différents domaines, différents courants de la critique littéraire, sur lesquels je ne m'attarderai pas. Et j'ai abordé, moi, cette question avec les instruments de la théorie de l'argumentation dans le discours, que j'avais dans l'intervalle mis en place. Là, vous avez une petite seconde de publicité. Et je voudrais ici en introduire un aspect qui me paraît important pour le discours littéraire et que j'appelle la problématisation, et j'y reviens tout de suite. Alors, en analyste du discours et de l'argumentation, je pars du constat, bon, vous me direz trivial, mais pas sans importance, pas sans conséquence, que le discours littéraire, c'est avant tout un objet de langage. Et donc, mon travail porte sur la façon dont le discours littéraire oriente le lecteur, dont il l'oriente vers certaines façons de voir, de comprendre, je dirais même de sentir la réalité sociale. Et c'est cette dimension argumentative qui se distingue de la visée argumentative du discours, et je m'explique. Les textes à visée argumentative ont pour but de faire adhérer le public à une thèse. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fournissent une réponse à une question. Hein, et cette réponse, ils travaillent à la justifier. C'est le cas du roman qu'on appelle roman à thèse, qui est porteur d'un enseignement, et cet enseignement tend à démontrer la vérité d'une doctrine politique, philosophique ou autre. Alors, ces œuvres se rattachent à la grande tradition de l'exemplum rhétorique, qui se manifeste dans des genres comme la parabole ou comme la fable, mais elles sont aujourd'hui dépréciées en raison de leur caractère didactique, hein, qui exige donc une schématisation assez rigide et puis des procédés de redondance. Alors, la dimension argumentative, quant à elle, ne propose pas une thèse bien déterminée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle construit, c'est une construction discursive, donc si vous voulez, une façon de dire, hein, une façon de dire qui projette un certain éclairage sur la société dans laquelle le texte émerge. Elle tente de faire partager des points de vue sans enchaîner des arguments. Et de cette manière, le discours à dimension argumentative nous engage à quoi ? Il nous engage à déchiffrer le réel d'une façon plutôt que d'une autre et adapter en conséquence notre vision des choses, nos attitudes, nos comportements. On pose donc que la tentative d'infléchir des façons de voir et de penser tel ou tel aspect du social n'est pas nécessairement le résultat d'une démonstration en bonne et due forme. Évidemment, pour la rhétorique et l'argumentation, ça a des conséquences importantes, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, n'est pas le résultat d'un enchaînement d'arguments logiques. Elle peut être aussi le fait d'une description, d'une narration, d'un échange de propos quotidien. Et l'argumentation, eh bien, elle s'y construit autrement. Elle demande un déchiffrement différent. Un déchiffrement qui fait la part belle à l'induction, c'est-à-dire qu'on passe du particulier au général, au calcul interprétatif. Donc, on va induire quelque chose à partir du contexte, ce qui entoure, et du contexte. Et à une construction de lecture, c'est-à-dire que le lecteur va mettre en relation des termes, des éléments de discours, des segments séparés. Alors, petit exemple pour illustrer ce propos. Voilà, Balzac. Dans un roman feuilleton de Balzac que vous connaissez peut-être, et qui s'appelle « La cousine bête », qui se situe en... a été écrit en 1846, Hortense, une jeune fille, dit à sa mère, Adeline Hulot, qui est mariée à un baron, un ancien général de Napoléon, et les frasques de ce baron sont en train de ruiner la famille. Et donc, il lui dit, « Tu ne sais pas, Lisbeth, eh bien, j'ai le soupçon affreux qu'elle travaille en secret. » Bon, l'adjectif affectif, mais aussi axiologique « affreux », dramatise l'énoncé, rejaillit sur le travail en lui donnant un sens fortement péjoratif. Et bien sûr, l'expression en secret achève de le marquer du sceau de la honte. La dévalorisation qui est marquée par ces deux qualifications n'est pas d'ordre purement éthique, mais bien social. Bien sûr, à cette époque, travailler pour une femme de la haute société dénonce une pénurie totale, hein, vraiment une dégradation qu'on veut dérober au regard. Et cette réplique, vous le voyez, ne contient pas d'arguments formels, mais elle permet d'inférer du fait que le soupçon est affreux et le travail secret, que travailler est honteux, et elle justifie cette honte par un renvoi aux croyances et aux valeurs partagées de l'époque qui correspondent à la doxa, donc à l'opinion de l'auditoire cible du roman feuilleton. Donc de ce cas particulier se dégage une norme, une règle qui entraîne une réflexion plus générale. Le travail constitue une déchéance pour toute femme de la bonne société. La prodigalité et l'irresponsabilité du père de famille mènent à une telle déchéance, comme le montre l'intrigue du récit dans laquelle il faut replonger évidemment l'observation d'Hortense. Donc, vous voyez que c'est dans le discours apporté, donc la réplique d'un personnage, que se met en place une dimension argumentative qui n'est pas de l'ordre d'un raisonnement logique formel, mais qui n'en présente pas moins un point de vue, un point de vue déterminé sur le travail et puis sur la prodigalité des maris volages. Alors, on est ici dans la logique d'un genre destiné au grand public, qui jouit d'ailleurs un immense succès à l'époque et qui conforte la doxa, l'opinion commune. Mais ce feuilleton signé de Balzac contient aussi une dimension supplémentaire. En effet, la réplique est adressée à la cousine bête, une vieille fille qui a les mêmes origines paysannes que sa cousine devenue baronne, mais qui, elle, travaille pour pouvoir à ses besoins. « Adeline va comme moi travailler pour vivre », pensa la cousine bête, « ses jolis doigts, seront donc enfin comme les miens, ce que c'est que le travail forcé. » Alors, le désir de vengeance de la parente pauvre, hein, c'est les parents pauvres, érigé en opposante maléfique, confirme le caractère déshonorant du travail pour une personne du rang d'Adeline, mais il souligne aussi l'égalisation que le travail établirait entre les deux femmes. Le texte ne milite certes pas pour la promotion des travailleurs et l'égalité de toutes et tous, mais il problématise la question de l'inégalité de la situation faite aux gens du peuple dans la France de 1946 et montre les attitudes d'envie et le désir de revanche qu'elle suscite chez les défavorisés. La cousine bête, lit-on au début du roman, appartenait à cette catégorie de caractères plus communs chez le peuple qu'on ne pense, et qui peut en expliquer la conduite pendant les révolutions. Nous sommes en 1946. Le discours romanesque ne défend pas une thèse, il offre un contrepoint à l'argumentation que développe le récit doxique du feuilleton. Il appelle une construction de lecture qui soulève implicitement des questions plus qu'elle n'apporte des réponses. Donc, l'argumentation travaille ici à problématiser. Alors, je voudrais insister ici maintenant sur la problématisation qu'autorise cette dimension argumentative du texte littéraire, c'est-à-dire sur la façon finalement dont l'agencement du discours, la façon dont le discours est construit, permet de pointer des questions immergées, de présenter des paradoxes ou des apories, d'interroger des évidences. Et dans cette optique, la notion de problématisation se rapproche selon moi de celle qui a été élaborée en philosophie par Michel Foucault, qui dit la chose suivante, si vous me permettez de lire la citation, ce qui distingue la pensée, c'est qu'elle n'est pas ce qui habite une conduite et lui donne un sens, elle est plutôt ce qui permet du recul par rapport à cette manière de faire ou de réagir, de se la donner comme objet de pensée et de l'interroger sur son sens, ses conditions et ses fins. La pensée, c'est la liberté par rapport à ce qu'on fait, le mouvement par lequel on s'en détache, on le constitue comme objet et on le réfléchit comme problème. D'autres, comme le Brésilien Paulo Freire, y voient un développement, donc dans la problématisation, un développement de la conscience critique qui déconstruit les vérités toutes faites et les mythes dont on nourrit les peuples. C'est pour lui un instrument pédagogique. Donc la problématisation ne vise pas à apporter des réponses, mais à faire émerger un questionnement dans ce qui paraissait aller de soi, c'est-à-dire qu'elle défamiliarise ce qui relève du sens commun, et Freire en a fait un véritable instrument de pédagogie. Alors, dans la même veine, la dimension argumentative du discours ne comporte pas nécessairement de conclusion claire. Elle attire l'attention sur les problèmes que soulève un questionnement qui nécessite la réflexion. Cependant, juste dire un mot sur le fait que, évidemment, la problématisation désigne en philosophie une démarche systématique de la pensée qui est par essence analytique, alors que dans le discours littéraire, elle ne se présente pas sous forme de raisonnement systématique, mais a recours aux moyens qui sont en sa possession. C'est dans cette perspective que, dans mes propres travaux, j'ai analysé ce que la dimension argumentative des textes nous apprenait sur notre société présente ou passée et sur la façon dont elle se construisait, j'insiste, dans la matérialité du discours et dans l'agencement de la fiction. Alors, j'ai travaillé par exemple sur les romans de la Grande Guerre. Entre autres, juste comme exemple, j'ai analysé la mise en scène de l'argumentation pacifiste dans l'été 14 Roger Martin Dugard. Donc, évidemment, je ne peux pas vous l'exposer ici, c'est beaucoup trop long. Mais son discours contre la guerre qui va à rebours de l'opinion commune, au fond, la question qui est soulevée, c'est est-ce que ce discours contre la guerre, ce discours pacifiste, est la marque d'un comportement héroïque Ou est-ce que c'est au contraire une attitude de rêveur, hein, rêveur qui est pris dans ses fantasmes? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces questions sur 14 sont soulevées par Martin Dugard en 1936, parce que c'est à ce moment-là qu'il écrit son roman. Et c'est vrai qu'à aucun moment, le récit fondé sur des faits de l'époque ne se réfère à la situation de 1936, et Romain Dugard le fait exprès. Mais il résonne, c'est le terme de Dugard, il résonne néanmoins avec elle, laissant au lecteur le soin de poser la question, de penser, pardon, la question de la démagogie ou du pacifisme au présent, en la recadrant, bien sûr, et en la recontextualisant. Alors, pour l'analyste, il ne s'agit pas de spéculer sur le texte, mais de montrer comment ce texte fonctionne, comment il utilise les ressources du langage. Et je veux en prendre un dernier exemple, avant de conclure, qui est un récit que vous connaissez peut-être de Bernard Schlink. Je l'ai lu, moi, en traduction française, il a été écrit en allemand en 1996, qui s'appelle « Le liseur ». On en a fait un film, d'ailleurs. Et il présente le discours d'un jeune Allemand de la deuxième génération qui se penche sur le passé nazi de son pays. Alors, il revient sur son militantisme étudiant et le narrateur, à ce moment-là, dit la chose suivante. « Tous, c'est une traduction, hein, nous condamnions nos parents à la honte, ne fût-ce qu'en les accusant d'avoir, après 1945, toléré les criminels à leur côté parmi nous. » Alors, on peut bien sûr reconstruire un antimème, donc un syllogisme manquant, hein, celui des jeunes gens. Tolérer des criminels en son sein est une honte, hein, c'est la majeure manquante. Les parents des étudiants allemands ont toléré des criminels nazis parmi eux, ils ont donc adopté un comportement honteux. Mais, bien sûr, une attention à la formulation du discours dévoile une plus grande complexité. D'un côté, la révolte contre tous ceux qui ont, dans l'Allemagne d'après-guerre, participé au rapide oubli des forfaits passés, peut apparaître comme un acte de courage et d'honnêteté, hein, celui de ces étudiants. D'un autre côté, condamnés à la honte, donc cloués publiquement au pilori, est connoté du point de vue moral. Alors, que les enfants s'érigent en juges de leurs parents apparaît en contradiction flagrante avec le respect qui leur est dû, et qu'ils se donnent le pouvoir de les condamner est perturbant. Et cela d'autant plus que les parents ne sont pas condamnés pour avoir créé ou approuvé la situation, non, simplement pour l'avoir toléré, c'est-à-dire pour ne pas l'avoir empêché, après 45. Alors, dans les lignes qui précèdent ce que je viens de vous lire, il est dit que le père du narrateur a été destitué de son poste de professeur par le régime nazi, ce qui n'a pas du tout empêché son fils à l'époque de l'inclure dans le verdict général. Donc, la généralisation et l'indiscrimination à la base de l'attitude des jeunes contribuent à dénoncer le radicalisme. Ils ont tranché de façon radicale la difficile question de savoir comment il convenait de réagir envers tous ceux qui avaient toléré dans l'Allemagne d'après-guerre la présence des anciens responsables nazis. Le récit, lui, refuse de trancher et problématise la question en la soumettant au lecteur. Alors, en conclusion, l'analyste examine le discours littéraire non pas comme un pur objet esthétique qu'il est également, mais comme, je l'ai dit, un agencement discursif complexe qui suscite des questionnements sur la société présente et passée. En se penchant sur ce que le texte dévoile, sur ce qui s'y dit souvent en filigrane, il montre comment il engage les lecteurs à se détacher de certaines manières de faire ou d'agir, afin de pouvoir les interroger sur leur sens, sur leurs conditions et leurs fins. Je suis revenue à la citation de Foucault. Une réflexion sur le fonctionnement particulier du texte littéraire, sur le travail du langage à travers lequel il dit le monde autrement, s'accompagne ainsi d'une exploration de ce que chaque œuvre nous invite à interroger et à repenser dans une remise en question de nos habitudes et de nos certitudes. Je vous remercie.
Je vous parlerai en français. Moi aussi. Et je n'ai pas de présentation, parce que de temps en temps, il faut voir si on est encore capable de parler sans diapositive. Alors, j'essayerai aujourd'hui. Bon, je suis heureux de me retrouver avec vous cet après-midi, d'abord parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que nous ne l'avions prévu, et nous aurions sans doute dû réserver un amphithéâtre plus grand, mais je ne savais pas que vous viendriez aussi nombreux, et comme en plus il y avait quelques petites rumeurs qui nous incitaient à décommander, nous n'avions pas prévu trop grand. Alors je voudrais d'abord rappeler qu'avec Ruth Amossi, nous avons des échanges depuis très longtemps qui sont antérieurs à ma venue au Collège de France, puisque lorsque j'étais à la Sorbonne, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, auparavant, nous avions un accord de coopération et nous avions un colloque régulier, annuel, soit à la Sorbonne, soit à Tel Aviv. Et en particulier, les deux présidents de Paris 4, Sorbonne, je voudrais les rappeler parce qu'ils ont été importants dans cette coopération qui a d'ailleurs, pendant longtemps, soutenu le département d'études françaises de l'Université de Tel Aviv, hein, Georges Molinier, prématurément disparu, et Jean-Robert Pitt, que certains d'entre vous connaissent bien, et c'est avec eux que je suis allé souvent à Tel Aviv. Au retour de l'un de ces voyages, mais je crois que c'était plutôt à Bar-Ilan que j'étais allé faire un séminaire cette fois-là, j'avais publié une tribune dans Le Monde pour m'opposer à ce qu'on appelait déjà le boycott des échanges entre les universitaires français et israéliens. Je crois que c'était au tout début des années 2000, ce qui nous renvoie assez loin. C'est une tribune qu'on me rappelle encore, près de 20 ans après, quand je circule dans le monde. Et ce sont des choses qui ne sont pas oubliées. Je me souviens d'une conférence que j'ai donnée il y a quelques années à la Bibliothèque nationale de Tunis, où on m'a encore interrogé à la sortie sur cette tribune, où je disais que même si c'était aussi un moment particulièrement tendu, nous ne soutenions pas nécessairement la politique d'aucun État, eh bien, les échanges académiques devaient se poursuivre, et peut-être d'autant plus qu'il y avait des divergences et que les universitaires que nous rencontrions lorsque nous allions à Tel Aviv ou à Jérusalem ou ailleurs étaient de ceux qui, précisément, le plus souvent, militaient pour d'autres politiques dans ce pays. Puis je voudrais aussi rappeler que le Collège de France entretient des relations scientifiques avec des universités dans le monde entier. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'étais avec Thomas à Beyrouth, où cette fois-là, nous étions déplacés, c'était le Collège de France à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, avec laquelle nous avons une convention de même nature, et pendant une semaine, les professeurs du Collège de France ont donné des conférences à l'Université Saint-Joseph. Pour beaucoup d'entre nous, nous nous sommes également rendus à l'American University de Beyrouth, avec laquelle nous avons également beaucoup de rapports. Et je voudrais aussi vous rappeler que aujourd'hui il y a un second colloque, si vous ne vouliez pas venir dans cet amphi au Collège de France, au rez-de-chaussée, il y avait le colloque qui termine le cours de François Desroches, et c'est un colloque sur le Coran. Depuis les années 1530, l'hébreu, comme l'a rappelé François Heilbronn, est enseigné au Collège de France, et l'arabe s'est aussitôt ajouté. Nous sommes encore, je dirais, assez exemplaires sur cette figure. Mais enfin, l'année dernière, je suis allé faire des conférences à Bagdad, à l'Université de Bagdad et à l'Université de Najaf, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'académiques, d'universitaires français qui sont allés jusque-là parler à des étudiants et entretenir des rapports avec des chercheurs. Et je crois que de ce point de vue, nous n'avons donc aucune leçon à recevoir de personne et nous menons notre politique scientifique de manière absolument indépendante. Donc je voudrais maintenant répondre à un certain nombre des propos qui ont été tenus par mon ami Ruth Amossi sur littérature et argumentation, développement très intéressant sur sa vision des choses et, je crois, une excellente mise au point où elle a opposé, me semble-t-il, deux conceptions du rôle social de la littérature. Une première conception, qui est une conception classique, rhétorique de la littérature, qu'on pourrait dire aristotélicienne ou cicéronienne. La littérature doit plaire et instruire, instruire en plaisant, c'est le placere et docere, ou délectare, de la tradition classique, qui consiste à penser que la fable, la fiction, est un exemple, exemplum, elle a employé le mot, un exemplum moral qui sert à l'instruction. Et puis une conception moderne de la littérature dans son rôle social, une conception moderne, éclairée, je crois que c'est celle-là qu'elle qualifie d'argumentative et qui date au fond des Lumières et du XVIIIe siècle, qui s'oppose à celle qui s'était maintenue jusque-là et qui voudrait que la littérature soit libératrice. La littérature déconstruit les préjugés. Et ces préjugés, pour les hommes des Lumières, ils étaient d'abord de nature religieuse. Ruth, Stella, je trompe toujours, a employé le mot « problématiser ». La littérature problématise, c'est-à-dire qu'elle développe le sens, la conscience critique. Elle bouscule les préjugés, elle trouble les idées reçues, ce qu'on appelle la doxa, l'opinion commune. Elle défamiliarise, et cette notion de défamiliarisation, de choc, a été très souvent reprise par les théoriciens de la littérature, notamment au XXe siècle. Et c'est pourquoi c'est là opposé l'argumentation à la thèse, je crois. Elle évoquait le roman à thèse, le roman à thèse qui veut montrer et démontrer et qui a des réponses à donner, alors que l'argumentation, eh bien, c'est plutôt un questionnement. Et les exemples qu'elle a pris montraient comment la littérature questionne, mais ne donne pas nécessairement des réponses. On retrouve ce rapport des questions et des réponses évoqué par l'archéologue et l'historien tout à l'heure. C'est le rôle qui est traditionnellement reconnu à la littérature depuis le XVIIIe siècle, d'être un chemin vers la liberté, et notamment la liberté de conscience. Et on peut penser que ça commence avant le XVIIIe siècle. Ça commence avec Montaigne, et c'est un cheminement qui irait de Montaigne à Rousseau, cette vision libératrice de la littérature. Cette vision libératrice, je crois que là aussi on trouvait les termes dans ce que disait Ruth, elle est pédagogique plus que didactique. Elle n'est pas didactique parce qu'elle ne soutient pas une thèse, mais elle est pédagogique parce qu'elle pose des questions. Au XIXe siècle, on opposait également de la sorte le symbole et l'allégorie. L'allégorie, c'est une leçon, dans l'allégorie, on voudrait démontrer une thèse et puis on raconte une histoire pour démontrer cette thèse. Ça vient de Kant, c'est Kant qui opposait symbole et allégorie. Et le symbole, selon Kant, c'est ce qui est au principe de toute la poésie romantique. On part du particulier et on va vers le général. L'allégorie du général au particulier, le symbole du particulier au général, et c'est le cheminement de la poésie. Alors voilà cette grande opposition, mais on peut dire qu'elle est tout de même un petit peu rigide, parce que je crois qu'on a beaucoup montré, peut-être surtout au XXe siècle et aujourd'hui, que la littérature déjoue tout projet didactique. Et c'est ça qui la définit. On ne peut pas démontrer avec de la littérature. La vraie littérature, ben, c'est celle qui survit à un projet démonstratif. Elle s'en débarrasse comme d'un échafaudage. Et je prendrai un seul exemple, un livre particulièrement bien connu, c'est Manon Lescaut. Manon Lescaut est un livre de morale. Il commence par un avertissement qui nous dit que cette fable, elle est là pour nous détourner de la passion. Et selon l'avertissement, précisément, il est dit « quand on donne des règles, eh bien personne ne les suit ». Mais si on donne des exemples, alors ben, les exemples sont frappants. Et les exemples, ce sont les fables, ce sont les paraboles. Les paraboles du Nouveau Testament, le Nouveau Testament résonne par paraboles parce que les règles, les lois ne sont pas suivies. Eh bien, malgré cela, le livre Manon Lescaut est devenu la plus grande leçon d'immoralité au XIXe et au XXe siècle. Ce livre de morale est devenu un mythe, le mythe de l'amour-passion. Et voilà pourquoi il y a plusieurs opéras qui sont fondés sur ce mythe avec autant de succès. C'est dire que la littérature à thèse, au fond, elle échoue toujours. Ou bien, si elle n'échoue pas, elle disparaît. Elle ne passe pas à la postérité, elle s'évanouit aussitôt. Donc la littérature, on pourrait dire que la littérature, quand elle est à thèse, elle meurt. Et puis on pourrait dire à l'inverse que quand elle défamiliarise, quand elle provoque, elle garde toujours tout de même une dimension thétique, une dimension didactique. Et il n'y a donc pas de véritable étanchéité. C'est par exemple ce qu'analysait Walter Benjamin, grand critique, lorsqu'il parlait de Baudelaire et s'intéressait à lui, ben, il montrait que justement Baudelaire réinventait l'allégorie. Baudelaire réinventait l'allégorie, c'est-à-dire cette figure de la tradition classique. Puis je me demande s'il ne faut pas aussi ajouter une troisième conception de la littérature, après la classique et la moderne, qui est peut-être la nôtre aujourd'hui, qu'on a parfois qualifiée de post-moderne, et c'est qu'au fond, la littérature ne sert à rien. Elle est inutile, elle est gratuite, et au fond, c'est pour ça qu'on l'aime. Parce qu'elle n'éduque pas et elle ne libère pas. Et je crois que c'est aussi, si on peut entretenir cette idée, c'est un peu en réaction contre un refus contemporain de ces visions antérieures de la littérature, de ces visions traditionnelles ou modernes, salutaires. Cette fonction qui est toujours rédemptrice de la littérature, cette vision éclairée. Et il y a beaucoup de critiques qui soutiennent aujourd'hui que la littérature, ben, elle transmet aussi l'aliénation. Elle transmet des valeurs subreptices qui la situent du côté du pouvoir. Il faut toujours repenser à cette scène extraordinaire dans « Triste tropique » de Lévi-Strauss où l'invention de l'écriture est liée au pouvoir. Le chef qui, ayant aperçu que l'anthropologue Lévi-Strauss prenait des notes, eh bien, se met à prendre des notes, mais sans écriture. Et la littérature, on a aussi souvent soutenu qu'elle est liée au scribe lié au pouvoir. C'est le pouvoir de la littérature qui lui attire des ennemis avant que ce ne soit sa faiblesse. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est très faible. Tu as rappelé, elle est faible, elle est fragile, mais elle a été pendant très longtemps plutôt puissante. Elle a servi à configurer le monde, à modéliser les choses. Et donc, je crois qu'il y a, on pourrait dire, une résistance ambiante à la littérature en raison de son pouvoir. Ce qui nous fait demander si le roman est encore possible. Et aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle la littérature se revendique comme dépourvue de tout pouvoir, comme maudite, comme étrangère. Bref, je me demande si dans cette alternative, conception argumentative de la littérature ou conception instructive de la littérature, celle de la vision classique, on n'est pas un peu sorti de cette problématique. Et je suis frappé que les exemples que prend Ruth, c'est des exemples qui sont liés au réalisme et au naturalisme, donc à une littérature qui est plutôt celle du 19e siècle, principalement. C'est celle dans laquelle on a été éduqué. C'est celle des grands romans qui, précisément, nous ont formés. Ce sont les romans, qu'ils soient français, anglais ou russes, qui ont été écrits dans ces écoles du 19e siècle. C'est dans ces romans qu'on a appris notre vie morale, qu'on a appris l'amour, qu'on a appris la mort, qu'on a appris le deuil. Les romans d'aujourd'hui nous permettent-ils encore de comprendre le monde? C'est ça, au fond, la question. Est-ce que la littérature qui se fait aujourd'hui, c'est encore, après Kafka, après Beckett, une littérature qui nous permet de comprendre le monde? Bon, la semaine dernière, il y a 15 jours, nous avons appris la mort de Philippe Roth. Est-ce que voilà des romans qui, aujourd'hui, nous... Enfin, j'aurais tendance à dire oui, des romans qui nous permettent encore de comprendre le monde, mais qui sont donc peut-être dans cette tradition de la littérature du 19e siècle. En vérité, c'est une question que je posais dans ma leçon inaugurale ici, il y a une douzaine d'années, où je mentionnais ces différentes visions de la littérature, de ses rapports avec la société. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question est plus urgente, et tu l'as rappelé, en raison de la place de la lecture, de la survivance de la lecture dans le monde contemporain. Et comme d'ici peu, j'approcherai de ma dernière leçon au Collège de France, ce sera l'occasion de fermer la boucle et de revenir à cette question et de voir comment les choses auront évolué. Mais je crois que la question initiale que tu posais est aussi très intéressante. C'est celle de la nature de la recherche. Et l'analyse argumentative, telle qu'elle est proposée, c'est au fond une analyse de la lecture ordinaire. Comment lit-on ? Et peut-être un apprentissage de la manière de lire mieux. Notamment lire, être plus attentif à un certain nombre de dispositifs dans le texte littéraire. Mais je me demande aussi s'il ne faut pas limiter la lecture à cela, la lecture notamment professionnelle. La lecture, qu'est-ce que la lecture professionnelle par rapport à la lecture de tout le monde ? La lecture professionnelle, est-ce l'amélioration de la lecture ordinaire ? Est-ce une réflexion sur la méthode de la lecture ordinaire ? Ou bien est-ce autre chose ? On pourrait dire que... Bon, alors maintenant, il y a beaucoup de théories de la lecture professionnelle qui nous disent que la meilleure lecture professionnelle que l'on peut faire de la littérature, des livres aujourd'hui, c'est celle qui est faite par l'intelligence artificielle. Par ce qu'on appelle le « distant reading ». Les algorithmes lisent beaucoup mieux que nous. Les algorithmes lisent beaucoup mieux que nous parce qu'ils lisent beaucoup plus de livres. Il me prend... lire, il n'a échappé à personne que ça prend du temps. Que ça prend du temps, c'est long, on ne peut pas faire autre chose en même temps. Tandis que dès lors que tous les romans du 19e siècle sont numérisés, eh ben, on peut tous les lire en même temps, à la fois, à travers un algorithme, et on peut en dégager des analyses, des interprétations qu'aucun lecteur physique ne peut réaliser. Et il y a bien des collègues qui insiste sur le fait que la vraie lecture professionnelle, c'est la lecture algorithmique, hein, la lecture statistique. Et c'est d'autant mieux que cette lecture statistique, elle est faite sans interprétation préalable, hein, par une analyse en composantes principales. Donc, on ne fait aucune hypothèse, on fait tourner l'algorithme, et c'est l'algorithme qui proposera une lecture et une interprétation. Ce sont des théories très intéressantes, hein, qui nous disent que nous ne sommes pas les meilleurs, que l'homme n'est pas le meilleur lecteur, hein, qu'il vaut mieux pouvoir lire tous les livres en même temps, et que cela évite les préjugés, les interprétations préalables. Et n'oublions pas que l'interprétation, ça fait toujours peur. Alors, on cherche toujours... n'oublions pas, c'est ça, la littérature, au fond, ça fait peur. On cherche toujours le moyen de ne pas lire, de ne pas interpréter. C'est ça que faisait l'histoire littéraire. L'histoire littéraire substituait l'histoire de la littérature à la lecture et à l'interprétation. Le lansonisme, c'était une façon de ne pas lire. Et on le caricaturait en disant, le professeur vient faire son cours, et pendant 6 mois, il parle de la vie de l'auteur, et puis au dernier cours, il aborde l'œuvre. Au dernier cours, mais c'est tout de suite l'examen. Puis ensuite, on pourrait dire que d'une certaine manière, la narratologie, la théorie littéraire qui a pris la suite, elle avait aussi pour finalité de ne pas lire les textes. Et on nous a beaucoup dit, avec la narratologie, tous les élèves seront en position d'égalité, puisqu'on fait de la narratologie, on analyse comment le texte est composé, ses figures, on analyse comme si on faisait de l'arithmétique. Donc tout le monde est à égalité, mais au fond, on ne parlera jamais du sens des textes. Au fond, c'est ça. Ce qui fait peur, c'est le sens des textes. Et très souvent, les méthodes cherchent à éviter de s'intéresser au sens de la littérature. Bon, c'est un peu les débats qui sont les miens entre... Bon, je vais intituler cette chaire ici « Histoire, critique, théorie » pour insister sur le fait que c'était les questions avec lesquelles je me débattais et qui me situent en compétition avec d'autres qui parlent aussi des textes littéraires, comme les historiens et les sociologues. Bon, il y a quelques mois, j'ai publié un livre sur les chiffonniers, et j'ai pu observer que les réactions à ce livre montraient justement un malentendu. Ce livre s'est plutôt bien vendu parce qu'il s'est vendu comme un livre d'histoire et pas comme un livre sur la littérature. Et il y a un détour par l'histoire, par la sociologie, par l'histoire de la ville de Paris au XIXe siècle pour comprendre, mais c'est pour comprendre la littérature. Il y avait besoin de tous ces angles de vue pour comprendre la littérature. Mais, au fond, la dimension littéraire est peu aperçue et, au fond, le retour sur investissement. Il s'agissait de mieux comprendre Baudelaire, de mieux comprendre Hugo, mais en voyant les réactions au livre, je me suis dit que la réception a insisté sur le détour, mais pas sur le retour sur investissement de ce détour. Donc j'ai été rendu sensible à l'ambiguïté du livre et de la démarche. Les textes littéraires, je crois qu'il faut le rappeler, ne sont pas lus pareillement par les historiens et les littéraires. Et ils sont lus, évidemment, il y avait la vieille opposition document-monument, mais c'est insuffisant. Ils sont lus comme des documents par les historiens, mais ils sont lus du point de vue, et j'y reviens, de l'interprétation, cette interprétation qui fait peur aux littéraires. Ensuite, j'ai invité Ruth l'an dernier à l'un de mes cours, et c'est là où on a fait le projet de ce colloque d'aujourd'hui, où il s'agissait de la littérature comme sport de combat. Et là aussi, je faisais un détour par l'histoire du XIXe siècle, et notamment le droit, puisque c'était sur le duel, et le duel très important des écrivains au XIXe siècle. Mais là aussi, il s'agissait d'un retour vers la littérature. Un historien un sociologue ne parlerait pas des textes de la même façon que nous. Il y a une démarche propre. Et je voudrais terminer en évoquant ce que nous avions annoncé dans le petit résumé qu'on avait proposé et auquel on n'a pas trop touché, puisqu'on nous avait demandé des petits résumés pour ces interventions. Et on avait dit que nous avions dit que nous allions parler de la littérature contemporaine comme espace de débat, de controverse, voire de polémique sur des questions de société, la guerre, la violence. Nous ne l'avons pas abordé, donc je voudrais terminer sur ça tout de même, parce que nous lisons aussi la littérature contemporaine et ses rapports à la violence et à la guerre. Et terminer en disant qu'il y a eu, dans la période récente, une très forte montée de l'intérêt de la littérature de témoignage et de l'intérêt pour la littérature de témoignage. Dans la littérature française, cet intérêt pour la littérature de témoignage est lié à un sujet que nous avons tous les deux abordé, qui est la Grande Guerre, la guerre de 14-18. Nous terminons, nous sommes en 2018, mais nous avons eu pendant 4 ans le temps de réfléchir à cette littérature de témoignage. Il y a 4 ans, j'avais fait un cours ici sur la Grande Guerre des écrivains. Et c'est cette guerre de 14 qui a suscité le premier grand intérêt pour la littérature de témoignage, parce que, on pourrait épiloguer longtemps, parce que c'est une guerre longue, parce qu'elle a été faite par des soldats qui savaient écrire, résultat de plusieurs générations d'école depuis 1830 et sous la Troisième République, et parce qu'on s'est intéressé donc à la guerre vue d'en bas, ce qui était un phénomène tout à fait nouveau. Mais bien sûr, cet intérêt pour la littérature de témoignage dépasse largement depuis, dans la dernière période, la guerre de 14, et il faut évidemment évoquer tout ce qui est lié à la Shoah, au témoignage sur la persécution des Juifs suivant la Seconde Guerre mondiale, qui est le second grand moment de cette littérature. Et, et alors là, il y a peut-être en effet une dimension qui est plus proche de ces théories argumentatives fortement liées à la littérature du XIXe siècle, hein, puisque cette littérature de témoignage n'est en général pas une littérature d'avant-garde. Hein. Or, c'est la littérature d'avant-garde qui nous a largement séparés de cette volonté de comprendre le monde et d'argumenter à travers la littérature. Et la littérature de témoignage est très importante aujourd'hui, et dans ce corpus nouveau qui suscite beaucoup de travaux, on parle par exemple beaucoup, dans les pays de langue anglaise, de trauma studies, qui est devenu un secteur important de l'étude littéraire. Dans ce domaine de la littérature de témoignage, eh bien, regardant ce qui s'écrit, je voudrais signaler que dans ce renouvellement des rapports entre littérature et société, il y a relativement peu un secteur qui est plutôt laissé de côté dans ce nouveau corpus. Bon, il est question, j'ai dit, de la guerre de 14, de la Shoah, du Goulag. Énormément de littérature sur le Rwanda, notamment en français, beaucoup de très bonne littérature sur le Rwanda, mais je dirais, étonnamment, parce que je l'ai constaté en y réfléchissant pour vous, peu sur le Moyen-Orient, peu sur l'Irak, peu sur la Syrie, peu sur le Liban, peu sur la Palestine, étonnamment peu. Et je terminerai simplement en évoquant un des derniers écrivains de langue hébreu que j'ai lu récemment avec beaucoup de plaisir et qui justement est un arabe israélien, Sayed Kashua, dont j'ai beaucoup apprécié. Les arabes dansent aussi, et il y eut un matin, et c'était assez frappé que cet écrivain israélien écrivant en hébreu aujourd'hui soit l'un des bons représentants et les plus éminents de la littérature en hébreu. Bon, ayant bénéficié d'une excellente éducation dans une école d'élite, hein, c'est une œuvre qui est née de la seconde intifada, hein, autobiographique et, ou en tout cas personnelle, qui a eu beaucoup de mal à passer, condamnée de tous côtés, c'est une œuvre qui certainement permet de comprendre le monde selon ce schéma que je décrivais tout à l'heure. Ben, malheureusement, il n'est plus en Israël aujourd'hui. Il est aux États-Unis, comme beaucoup de gens qui aboutissent là-bas aux États-Unis. Mais j'ai cru comprendre qu'il voudrait revenir, qu'il compte revenir. Et donc, tout espoir n'est pas perdu. Merci.
Alors, voilà, vous voyez, Antoine et moi, nous avons continué devant vous un dialogue que nous menons de longue date. Et justement, son discours problématisant m'a permis de prendre des distances et de réfléchir. Et donc, je voudrais rebondir un petit peu sur quelques points dont on pourrait rediscuter avec vous également. Je voulais souligner, peut-être insister sur le fait que mon approche, l'approche que j'ai présentée du rapport entre texte et société est une approche parmi d'autres. Mais cette approche, elle privilégie ce que un Américain, un rhétoricien américain, Michael Leff, appelait justement le « close reading ». C'est-à-dire que, contrairement à ce « distant reading », qui est évidemment plus récent, et qui veut laisser la littérature aux ordinateurs, en expliquant qu'il n'est plus nécessaire de lire les textes. Alors, moi, j'assume. Hein, j'assume le close reading. J'assume l'attention, la nécessité de la lecture, l'attention minutieuse au texte, c'est-à-dire vraiment d'entrer dans l'épaisseur du langage, de voir comment se construit le sens, comment il se communique. C'est une interaction entre être humain et pas entre des signes imprimés et une machine. Et voilà, c'est une vision, tu as bien dit, qu'elle remontait à, pas seulement libératrice, pas seulement au XVIIIe siècle, mais même à Montaigne. Hein, il a dit, voilà, une vision humaniste et critique qui souligne que la littérature, c'est un mode de communication. Et qu'elle a aussi un apport, ne fût-ce que comme genre épidictique, c'est-à-dire qui transmet et qui renforce des valeurs. Bon, donc, voilà, c'est une position hein, dont on pourrait discuter. Franco Moretti n'est pas là pour en discuter avec moi, heureusement, mais c'est certainement un sujet de réflexion et on peut remettre sur le tapis la question de l'importance maintenant des analyses quantitatives en analyse du discours, en littérature, qui n'est pas négligeable, mais qui peut-être n'est pas toujours aussi dramatique que celle que Moretti propose. Voilà. Maintenant, je voudrais peut-être ajouter que je suis en fait d'accord avec toi, et je ne l'ai peut-être pas montré de façon assez claire, mais vraiment tout à fait d'accord sur le fait qu'un texte littéraire, ben, il ne peut pas avoir uniquement une visée argumentative. C'est en soi une contradiction dans les termes, ce n'est pas possible. Parce que, justement, c'est un objet de langage et que quelque chose se dit et se construit, mais souvent en filigrane. Et ce qui est intéressant aussi dans les textes, c'est que ben, parfois un texte qui veut démontrer quelque chose, quand c'est un texte thèse, eh bien, on trouve en filigrane quelque chose qui entre en tension avec cette thèse. Et c'est dans le numéro que nous venons de publier de notre revue Argumentation, analyse du discours, il y a un article d'un collègue français, Alain Rabatel, qui reprend une fable de La Fontaine pour montrer effectivement comment, derrière la thèse affirmée, hein, c'est la leçon... comment derrière cette thèse affirmée, se présente toujours, se construit toujours autre chose. C'était à propos de la leçon du plus fort est toujours la meilleure. Le loup et l'agneau, voilà. Donc, absolument d'accord, là, il n'y a pas vraiment... Et aussi, autre chose que tu me permets de préciser, c'est que, bon, moi, j'ai insisté sur la problématisation, parce que c'est vrai que ça m'intéresse tout particulièrement, mais ce n'est évidemment qu'un aspect des choses dans une lecture argumentative, c'est-à-dire que le texte, bon, il donne beaucoup à voir son rapport à une doxa, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, d'opinions qui sont celles d'une société... les façons de penser d'une société à une époque, ce qui montre, ça nous montre ce qui relève du pensable de l'époque, et donc un imaginaire social. Et là, je voulais en venir à tes travaux, justement, hein, ce très très beau livre sur les chiffonniers, qui ne se vend, je suis sûre, pas seulement parce qu'on le prend pour un livre d'histoire, c'est vraiment un très très beau livre. Et bon, c'est une étude, finalement, c'est une étude d'un phénomène socio-économique à une période déterminée, donc le phénomène du chiffonnier, qui montre la façon dont les textes se construisent à partir de cet élément et finalement construisent aussi un imaginaire. Alors, bon, j'avoue ma faiblesse pour ce genre d'étude. Donc, je l'ai apprécié tout particulièrement. C'est une autre façon d'aborder la relation entre donc, discours littéraire et société. Les deux approches, finalement, devraient mettre en valeur, et mettre, je pense, en valeur, éventuellement pas dans ce que j'ai dit aujourd'hui, cette idée d'imaginaire social. Donc, ce serait intéressant de voir un petit peu comment les choses peuvent se relier. Alors, ce qui m'a... par contre, et là, je voudrais revenir à quelque chose que tu écris dans ce livre, parce que tu te réfères à notre maître à tous deux, qui est Michael Riefater, hein, à la fin du livre. Et tu dis qu'au fond, tu as essayé de désigner... que ce n'est pas un livre d'histoire ou de sociologie, et que tu as essayé de désigner une constellation de termes associés à une sorte de mot noyau. Et je te cite là... hein, étudier la dissémination du chiffonnage à la surface du texte. Et donc là, je me demande comment toi, tu considères voilà, ce geste qui consiste à entrer dans l'épaisseur du texte, justement, à prendre en compte ce que moi j'appelle, avec les linguistes, la matérialité du discours, dans ta perspective.
Il n'y a pas vraiment de différent entre nous. Simplement,
et on fait semblant quand même.
On fait semblant pour avoir une discussion devant vous. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que par rapport à l'approche qualifiée d'argumentative, qu'il y a, même si on peut exprimer des réserves par rapport à toutes les théories de la déconstruction, qui ont été très à la mode à un moment donné, hein, de Paul de Man, de Jacques Derrida, toutes ces théories de la déconstruction, il y a tout de même quelque chose de sérieux à en retenir, qui est que le langage, la littérature, dans son mouvement, déjoue les intentions. Et c'est un peu ce que tu montrais aussi avec Balzac. Donc il faut toujours être attentif à la fois à la dimension argumentative, mais au fond, à la dimension contre-argumentative ou contre-productive par rapport à une intention. Et c'est ça que les gens de notre génération, en gros, ont appris et qui leur a permis d'avoir des lectures souvent plus subtiles, souvent trop compliquées, mais souvent assez éclairées. Alors l'autre question sur la matérialité, dans ce livre sur les chiffonniers, je me suis réclamé de Michael Riefater, hein, qui a été un grand stylisticien, c'est lui qui m'avait fait venir à Columbia il y a longtemps, à peu près 35 ans, et qui avait cette théorie de la productivité du texte à partir d'un mot noyau, à partir de signifiants noyaux. Et donc, je voulais dire que dans ce livre sur les chiffonniers, ce n'était pas seulement une sociologie du chiffon au XIXe siècle ou une histoire du chiffon, mais que l'intérêt, c'était de montrer qu'il y avait là tout un réseau de mots, tout un système symbolique qui diffusait dans cette littérature, celle de Baudelaire, celle de Hugo, celle de Gautier, auquel jusque-là personne n'avait prêté attention, parce que ce système, il n'était pas très intéressant, il était mineur, mais que c'était quelque chose qui envahissait toute la littérature. Dès qu'on y faisait attention, on le retrouvait partout. C'est une démarche un peu archéologique, peut-être, mais on retrouvait des traces partout. Alors, c'était assez étrange, parce que j'avais l'impression de retrouver du chiffonnage dans toute la littérature du XIXe siècle. Et en vérité, ça montrait que c'était bien un noyau de cette littérature. Mais ce qui m'intéressait, c'était sa productivité. Michael Riffater parlait de production du texte. Il y avait des mots noyaux qui, au fond, proliféraient et produisaient du texte. Et c'est pour ça que je voulais rappeler sa démarche, parce qu'on n'en parle plus tellement aujourd'hui. Cette démarche, elle a été un petit peu évacuée, donc ça valait la peine de rappeler que... Mais il faut donner la parole.
Avant de passer la parole à ça, je veux juste dire qu'il y a peut-être un malentendu de vocabulaire entre nous, parce que moi, si tu veux, je distingue... la visée argumentative, donc une intentionnalité de prouver quelque chose, de ce qui se trame dans le texte et qui est une façon de faire voir les choses d'une certaine façon à partir de méthodes, de procédures qui ne sont pas formelles et que j'appelle dimension argumentative. Oui. Donc comme ça, j'arrive à, tu vois, oui. Voilà, la quadrature du cercle. Alors, à vous, question.